Le retour de Radio X.
Que je qualifierais de gnochon.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Je vais même parler de quasi-délai.
Radio X.
Allez, on va de surprise en surprise dans ce show-là, Monsieur Jordan. Il est 16h36. L'ACEUM, que c'est ça? C'est l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui est dans l'actualité. Processus de révision, là, on parle de la date du 1er juillet, mais ça commence déjà à négocier. Il y a même un comité consultatif qui a été créé avec, entre autres, Jean Charest, Magali Picard. On posera la question à notre invité, pourquoi on ne l'a pas invité. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, M. Bernier.
Mais ça me fait plaisir. Merci d'invitation.
Bon, l'ACEUM, là, ça commence. Il y a des bribes d'informations qui sortent un peu ici et là. Puis on le sait, là, si on écoute les Américains, et eux sont très insatisfaits, entre autres, de la gestion de l'offre. Mais en général, avant qu'on plonge dans la gestion de l'offre, à chaque fois qu'on en parle avec vous, M. Bernier, ça réagit beaucoup sur le texto. Pour les Américains, parce qu'eux autres, ils disent que c'est un mauvais projet, une mauvaise entente, l'ACEUM, l'accord de libre-échange entre les trois pays. Qu'est-ce que toi, t'en penses, Maxime Bernier?
Bien, ce n'est pas une entente qui est mauvaise. D'ailleurs, il faut bien le rappeler aux gens, c'est que cette entente-là a été signée lorsque le président Trump était président à son premier mandat. Donc, il était très content de signer cet accord-là il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, on est en négociation, puis on commence à connaître bien le président Trump. Là. Il dit une chose une journée, il pousse des négociations, il essaie d'avoir la meilleure entente qu'il peut ou qu'il veut. Mais nous, faut avoir une direction, et la direction, c'est d'être bien assis, avoir nos points les plus importants, mettre sur la table les dossiers qui vont nous permettre d'avoir une bonne entente. Et moi, je crois bien qu'on peut avoir une bonne entente d'ici la fin de l'année. Et oui, bien là, ça grenouille un peu partout parce qu'on se prépare. Les négociations, on nous dit, commencent officiellement là bientôt. Mais d'après moi, depuis déjà quelques mois, il y a des négociations informelles.
Ben oui, ça jase déjà en coulisses, là.
Ah, absolument, absolument. Le comité que le premier ministre a créé, bien pour moi, c'est pour essayer d'avoir de l'appui politiquement lorsqu'il y aura l'entente, pour essayer de démontrer, il y a des gens de tous les partis, sauf du Parti populaire, comme vous l'avez dit. Et moi, je pense que le premier ministre Carney veut, lorsqu'il y aura son entente à la fin de l'année, où il y aura certainement des critiques par rapport à l'entente, mais pouvoir avoir l'appui des partis du Parti conservateur ou bien du Parti libéral du Québec au Québec, parce que ces gens-là auront conseillé les négociateurs de M. Carney. Donc, pour moi, le geste d'avoir créé ce comité-là, c'est seulement un geste politique pour essayer d'avoir le meilleur appui possible lorsque l'entente sera signée et d'avoir des gens qui parlent en faveur de l'entente.
Est-ce qu'il y a eu des approches envers Maxime Bernier?
Non, absolument pas, mais ils n'ont pas besoin de faire d'approche. Ça fait déjà 8 ans ou même plus que 8 ans, 10 ans que je le dis, si on veut avoir une bonne entente de libre-échange, il faut absolument que le cartel de la gestion de l'offre, c'est-à-dire le cartel dans le lait, le poulet, les œufs, le sirop d'érable, ouais, soit aboli. Et parce que Trump le demande, faut pas. Pourquoi que Trump le demande et pourquoi que c'est important pour lui? Parce que au Wisconsin, il y a eu des producteurs laitiers qui sont très importants, qui veulent exporter leur lait. Mais l'État du Wisconsin est un État qu'on dit swing. À chaque élection, une élection, il va aller démocrate, l'autre élection, républicain. Et lorsque le Wisconsin vote républicain, ben Trump, les deux fois, a été élu président des États-Unis. Donc, il va vouloir justement faire un cadeau à ces agriculteurs-là du Wisconsin. Il l'avait déjà demandé à l'autre entente de libre-échange qu'il a lui-même signée. Il voulait que la gestion de l'offre soit sur la table. Le Canada a réussi à dire non et avoir une entente. Mais je crois que cette année, ça va jouer là. Parce que c'est dans notre avantage et c'est dans l'avantage des Américains.
Est-ce que Carney, ou si ça avait été Poilievre, est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus habile à négocier selon Maxime Bernier?
Non, moi, ben, vous me demandez, entre autres, je me demandais, la dernière élection, est-ce que c'est le bon gars qui a gagné? Parce que la dernière élection portait seulement là-dessus. Qui va être le meilleur pour négocier une entente de libre-échange?
Le fameux Elbozap, là.
Ben oui, les libéraux ou les conservateurs. Pour moi, les conservateurs, sous Brian Mulroney, c'est eux qui ont négocié, Brian Mulroney, l'entente de libre-échange, qui a été très critiquée à l'époque, mais qu'on s'aperçoit que c'est grâce à cette entente-là qu'on a pu avoir une belle prospérité économique au Canada. Les conservateurs et les libéraux, sur le point le plus important qui va permettre d'avoir une bonne entente, comme je disais tantôt, la gestion de l'offre, les deux veulent travailler pour le cartel et protéger les producteurs laitiers et non pas faire en sorte que les consommateurs québécois et canadiens paient la moitié du prix pour leur lait, leur poulet, leurs œufs.
Ben, c'est ça. Parlons-en de ça. Mettons-nous dans la peau des consommateurs qui paient beaucoup de taxes au Canada, puis surtout au Québec, là, les plus taxés en Amérique du Nord. La gestion de l'offre, oui, ça protège les producteurs, mais le consommateur, lui, là, si jamais c'était aboli, ça pourrait ressembler à quoi, Maxime Bernier, là, la situation? Parce que là, non seulement on y a les quotas, il y a aussi on contrôle le prix, mais on empêche les Américains, parce qu'on a des droits de douane aussi, les Américains, de percer le marché canadien. Ça ressemblerait à quoi, ici au Québec, exemple, là, si on n'avait pas la gestion de l'offre? Au niveau du coût, puis...
Oui, bien, il faut juste dire c'est quoi la gestion de l'offre, en gros. La gestion de l'offre, ça le dit gérer l'offre. Donc, les producteurs de poulet, de lait et d'œufs doivent produire une certaine quantité seulement pour le marché canadien. Ils ne peuvent pas exporter. Et le deuxième point, c'est que les producteurs eux-mêmes fixent le prix de ces produits-là. Il y a, par exemple, au Canada, la Commission canadienne du lait, qui sont des producteurs de lait à la tête de ça. Et à chaque année, ils se rencontrent et ils regardent les coûts d'exploitation des fermes laitières. Ils disent, OK, on va se prendre un profit de temps et ils augmentent le lait à chaque année. Donc, ils contrôlent la production, le niveau de production, ils contrôlent le prix. Et pour que ça fonctionne, il faut empêcher les autres produits étrangers de venir ici. Parce que s'il y a des produits de d'autres pays qui viennent, qui sont vendus à un prix plus bas, bien, ça ne marchera pas la gestion de l'offre. Donc, pour que la gestion de l'offre fonctionne, il y a des barrières tarifaires que le gouvernement fédéral impose de plus de 300% sur le beurre, le lait et tous ces produits-là.
C'est pas un chiffre imaginaire, là, parce que ça roule un peu sur les réseaux sociaux. C'est du concret. Alors, quand on se dit on est insulté parce qu'on a des droits de douane de 25-50%, eux, ici au Canada, nous, au Canada, on impose des droits au niveau de comme vous dites, là, le lait puis tout ça, là, de 300-quelques%.
Ça va jouer dépendamment des produits. Ça joue le minimum entre 100% et le maximum 300%. Donc, c'est pour ça qu'on paye le double du prix. Et c'est pour ça que les Américains, ils ne peuvent pas exporter leurs produits parce qu'on ajoute 300% au prix et leur produit n'est plus compétitif sur le marché canadien. Et ce que les agriculteurs nous disent, les producteurs canadiens, bien, si on abolit la gestion de l'offre...
C'est la fin.
C'est la fin pour nous. Non, ce n'est pas la fin.
C'est ce qu'eux disent, ce sera la fin.
Non, mais c'est ça, c'est ce qu'ils disent, mais ce n'est pas la fin. Parce que ça, il y aurait une période de transition, donc on n'ouvrait pas la vanne et abolir les tarifs du jour au lendemain. Et ce qui se passerait, c'est que le gouvernement fédéral devrait racheter les quotas que ces producteurs laitiers ont payés. Parce que pour avoir le droit de participer à ce cartel-là, bien, on paie parce que, par exemple, si vous voulez exploiter une vache, le lait d'une vache, bien, vous achetez la vache, oui, mais vous payez un prix supplémentaire pour avoir le droit de vendre le lait de la vache. On appelle ça le quota. Et donc, ces quotas-là vont disparaître. Le gouvernement fédéral va devoir rembourser le quota à la valeur au livre. Et donc, cet argent-là, les producteurs vont l'avoir dans leur poche et ils vont pouvoir se moderniser et être capables d'exporter dans d'autres marchés. Puis on va leur laisser un temps. Normalement, c'est comme les producteurs de vin. Le premier échange de libre-échange, les producteurs de vin de glace en Ontario disant on ne peut pas compétitionner les vins californiens, ça va être la fin du monde. Il y a encore une industrie du vin de glace en Ontario qui est très prospère. On a laissé une période de transition. On va faire la même chose. Donc, c'est un argument de peur. Et ils disent, la deuxième fois, les consommateurs, les produits ne seront pas bons pour le consommateur parce que les Américains, par exemple, dans le domaine laitier, certains producteurs laitiers donnent des hormones de croissance à leurs vaches pour produire plus de lait, et ces hormones-là se retrouvent dans le lait. Et ici, au Canada, nos producteurs laitiers ne le font pas. Mais si les Américains vont vouloir exporter leur lait avec une entente de libre-échange, ils vont devoir respecter les mêmes normes.
Les normes canadiennes.
Le meilleur exemple, c'est les producteurs de bœuf. Les producteurs de bœuf au Canada voulaient exporter leur bœuf au Japon et ils donnaient des hormones de croissance à leur bœuf. Les Japonais ont dit non, on veut pas ça ici. Ils ont changé et maintenant le bœuf canadien est exporté partout et au Japon. Ça va être la même chose. Si les Américains veulent exporter leurs œufs ou leur poulet ou leur lait, ils vont devoir respecter les normes de salubrité canadienne. Et s'ils le font, ils ont le droit d'exporter. Et s'ils le font pas, ils n'ont pas le droit. Donc, pour les consommateurs, on va avoir un produit d'aussi bonne qualité. Et ils vont avoir le choix sur les tablettes.
Ouais, au niveau de la baisse des prix, ça pourrait ressembler à combien en pourcentage?
Ben, juste regardez actuellement, vous traversez la frontière, là, une douzaine d'œufs aux États-Unis, c'est la moitié du prix qu'on paie ici au Canada. Donc, avec le taux de change, moi, je dis là que ça serait des économies entre 20 % et 50 %. Et lorsqu'on parle d'inflation, surtout d'inflation dans la nourriture, actuellement au Canada, les conservateurs, les libéraux parlent de ça. Il faut que ça soit abordable pour les Canadiens. L'inflation dans les prix des aliments n'a pas de bon sens. Mais la meilleure façon de régler ça, c'est d'abolir la gestion de l'offre. Imaginez dans un panier d'épicerie, il y a du poulet, il y a du lait, il y a des œufs, il y a du beurre, il y a du fromage, mais tous les prix de ces produits-là diminueraient à peu près de la moitié. Et c'est comme ça qu'on peut aider vraiment les consommateurs.
Mais on n'a pas nécessairement les grandes fermes comme ils ont aux États-Unis. Là, puis je vais avec la réaction des gens sur le texto. Là, les gens sont très inquiets. Il faut pas vraiment que c'est des producteurs.
Oui.
Vous parlez de transition. Là. Encore là, la transition, est-ce que c'est le gouvernement qui aide? De quelle façon on la voit, la transition, Maxime?
OK, bien, il y a deux. Et par rapport aux fermes, là, je l'entends souvent, cet argument-là. Oui. C'est des grandes fermes laitières. Nous, on ne pourrait pas compétitionner, etc.
Ben, c'est un fait, là, mais je ne sais pas. Et ça, vous l'avez pensé. Là. C'est quoi votre réponse à ça? Parce que aux États-Unis, il y a quand même des grandes fermes. Là.
Oui, la réponse est bien simple à ça. Premièrement, les gens de la gestion de l'offre disent que grâce à ça, ça protège la ferme familiale et on a des petites fermes familiales. Cet argument-là, il est faux. Depuis la gestion de l'offre, 95 % des fermes familiales ont disparu. Pourquoi? Moi, je peux vous dire, dans Beauce, quand j'étais député, dans un rang, lorsque mon père était député avant moi, il y avait peut-être 10 producteurs laitiers. Mais ces producteurs laitiers-là se sont fait acheter par leurs voisins et maintenant, dans le rang, il y en a juste un au lieu de 10. Donc, il y a eu de la consolidation. Et donc, il y a des fermes laitières qui sont plus grosses qu'elles l'étaient il y a 10 ou 15 ans. Il y a eu de la consolidation. Et c'est pour ça, et oui, s'ils veulent se consolider et racheter leurs voisins et devenir plus gros, c'est pour ça qu'on faut avoir une période de transition pour leur permettre de le faire, d'avoir quelques années, et ils vont avoir l'argent pour le faire parce que le gouvernement va rembourser le prix de leur quota à la valeur au livre. Donc, ils vont avoir l'argent pour pouvoir acheter leurs voisins. Ça va coûter moins cher parce qu'ils n'auront pas à payer des quotas. Ils vont acheter vraiment le coût d'une vache ou le coût... Ils n'auront pas à rajouter un prix de quota. Donc, on leur laisse le temps. Ils vont avoir de l'argent pour le remboursement de leurs quotas qu'ils ont payé. Et ils vont pouvoir grandir et être plus efficaces, comme ça s'est fait en Australie. L'Australie, maintenant, est devenue un exportateur de lait en poudre partout à travers le monde. Donc, nous, on va permettre à nos producteurs de pouvoir exporter leurs produits qui sont très bons.
Hey, je veux demander aux auditeurs, parce qu'il y en a qui m'envoient de l'information, là, au niveau du coût, là, quelqu'un qui dit, un Québécois qui a passé l'hiver en Floride, 2,79 $ pour 4 litres de lait.
Hey, ici, hey, nous, c'est 8-9 $ pour 3 poches de lait, c'est 25 $ pour un 2 litres.
Mais faites le changement, là. Mettons 2 $ mettons avec le dollar canadien, ouais. Mettons 3 $ là. C'est encore en canadien. C'est encore beaucoup moins cher.
Ben oui.
Et ça serait ça. Donc, les consommateurs gagneraient. Les producteurs sous gestion de l'offre auraient de l'argent du fédéral pour leur acheter de leur quota à la valeur au livre. Et là, ils pourraient décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent vendre leur commerce, bien, qu'ils le vendent. S'ils veulent cesser d'opérer, ils vont le vendre à leurs voisins. Donc, c'est des peurs. Et si ce système-là était très bon, c'est le dernier argument, pourquoi que ce modèle québécois n'a pas été exporté? Il n'y a aucun pays au monde qui a un système de cartel dans le lait, le poulet, les œufs et le sirop d'érable. Il n'y a pas un pays au monde que ça. Donc, c'est pas exportable. C'est les Québécois. Ils vont dire on ne reçoit pas de subvention de l'État, nous, etc. C'est vrai que les producteurs sous la gestion de l'offre ne reçoivent pas de subventions, mais c'est les subventions des consommateurs. Ils ne reçoivent pas de subventions directes des gouvernements, mais ils reçoivent des subventions du consommateur en payant le double du prix pour ces produits-là.
Monsieur Bernier, en une minute et demie, c'est le temps qui nous reste. S'il y avait référendum dans le prochain mandat du Parti québécois, de ce que j'ai lu, vous voteriez, vous supporteriez la séparation du Québec?
Je voterai oui, non pas pour la séparation du Québec, mais pour créer une crise constitutionnelle et avoir une nouvelle entente avec Ottawa, parce que depuis le référendum de 95, le fédéral nous avait promis plein de choses il y a 30 ans. On a des programmes qui en santé, dans le système de santé, qui interfèrent dans les juridictions provinciales, dans les champs de compétences. Et moi, c'est la seule façon de sauver ce pays-là. C'est qu'il faut créer cette crise-là pour que le fédéral entende raison.
Vous dites qu'un oui, ça pourrait créer le chaos et à ce moment-là, le Canada négocierait avec le Québec, c'est ça?
Absolument, et c'est ce que les Albertains vont faire au mois d'octobre. Moi, je vais aller en Alberta cet été et à l'automne faire des discours en tant que fédéraliste et je vais leur dire, si vous votez oui, vous avez trois choix. Une nouvelle entente avec le Canada, vous êtes un pays indépendant ou bien vous êtes le 51e État des États-Unis. Et moi, j'aimerais ça que vous votiez oui. Pourquoi? Pour donner un pouvoir de négociation à Danielle Smith pour qu'elle puisse avoir une nouvelle entente. Et cette nouvelle entente-là, si Ottawa négocie une nouvelle entente qui respecte vraiment la Constitution de 1867, bien, ça va être bon pour toutes les provinces, dont le Québec. On ne peut plus. Le système fédéral, on est endetté, il y a des déficits, on est surtaxé, on est surréglementé, on empêche les provinces d'exploiter leurs ressources naturelles comme l'Alberta. Le Québec, on s'empêche nous-mêmes avec le moratoire sur les gaz naturels. Il faut débloquer tout ça. Et moi, c'est pour ça que je dis, bien, on est rendu là. Je pense et je fais de la politique au fédéral et je dis que le Parti populaire est la dernière chance pour sauver ce pays-là. Il faut que les politiques du Parti populaire soient adoptées parce que c'est les politiques qui respectent la Constitution et qui donnent plus de liberté aux gens. Et si vos auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur notre site partipopulairedu-canada.ca et lire notre plateforme. C'est la même plateforme depuis la création du parti.
La question qui tue. Si jamais Pierre Poilievre se fait indiquer la sortie ou quitte le retour de Maxime Bernier comme chef des conservateurs, est-ce que c'est utopique ou c'est réaliste?
C'est utopique. C'est utopique. Le Parti conservateur fait de la politique par sondage, comme tous les autres partis et focus group. Nous, on fait de la politique différemment. On a des principes, des politiques. On parle de politiques qui sont peut-être pas populaires aujourd'hui, pour informer la population en espérant qu'elle devienne plus populaire. Par exemple, l'immigration, j'ai dit en 2019-2018, notre première campagne électorale, qu'on devrait avoir un maximum de 150 000 immigrants par année. Je me suis fait traiter de raciste. J'avais raison, on aurait dû faire ça. On n'aurait pas les problèmes qu'on a maintenant de logement, les problèmes en santé, les problèmes dans les écoles avec tous ces immigrants-là qui viennent ici. Et là, maintenant, il faut un moratoire. Mais là, aujourd'hui, si on regarde la popularité d'un moratoire sur l'immigration et d'une pause en immigration, 60 % de la population est d'accord avec ça. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on fait de la politique par principe, différemment, sachant que nos idées sont peut-être pas si populaires que ça aujourd'hui, mais plus on en parle, plus elles vont devenir populaires parce qu'elles sont basées sur les valeurs de la société occidentale qui a fait en sorte que plein de pays sont devenus riches en respectant la liberté individuelle avec des plus petits gouvernements puis en respectant les gens.
Donc, le retour au bercail, on oublie ça.
Oui, oui, oui. Tout ça pour venir à la réponse, oui.
Merci beaucoup, Maxime. Un plaisir.
C'est moi qui vous remercie. Bonne
Merci,
journée.
Bonne journée. Bye.
Ce segment d'émission est présenté par Coin Réno Déco. La place pour rénover et décorer à petit prix. Plancher de vinyle, mur de douche, déco, tout y est. Qualité, service et prix imbattable. CoinRénoDéco.com.
Le retour de Radio X.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
Radio X.